Bien, nous allons commencer. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicole Revel, qui est linguiste et anthropologue, qui travaille depuis près de 40 ans, 44 ans, aux Philippines, et tout particulièrement dans l'île de Palawan, mais aussi dans d'autres régions des Philippines. Et Nicole Revel est devenue le grand spécialiste de la littérature orale, non seulement des Palawan, mais aussi d'autres régions des Philippines, puisqu'elle a mené une entreprise d'édition de textes extrêmement précieuses de différentes populations des Philippines. Et elle a travaillé tout particulièrement, donc en linguiste et en anthropologue, sur les paysages sonores, disons, tels qu'ils sont reflétés dans la langue et dans la musique. Et c'est, je pense, de cela, puisque je n'ai pas de connaissance préalable de ce qu'elle va nous exposer, mais on en a parlé un peu auparavant, dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle est très inquiète à l'idée que le dispositif technique ne marche pas, puisqu'il y a effectivement des images, des films et des enregistrements sonores, mais je suis sûr que tout va très bien se passer. Merci Nicole Merci. D'être venue.
Donc, j'ai légèrement modulé le titre de la présentation pour centrer, merci Philippe d'abord, de cette invitation à partager mon travail sur les montagnards Palawan, parce que je me suis surtout centrée sur ce que nous avons appelé, ce que Charles MacDonald a appelé la culture des hautes terres. Et pour comprendre la problématique, illustrer la problématique qui est la tienne, je ne pouvais pas me disperser sur tous les paysages, malgré l'unité linguistique à travers la variation dialectale qu'il peut y avoir. Je vais donc faire une brève présentation générale de cette culture, et puis j'aborderai trois questions. Le rapport à l'espace et au temps et les paysages qui vont être liés à ces deux grandes dimensions, deux grandes échelles, et puis je les aborderai aussi à d'autres échelles, et le paysage sonore. Je ne parlerai pas que du paysage sonore. Voilà, ça sera la troisième partie de ma présentation. Donc, dans l'archipel des Philippines, qui est situé sur le plateau de la Sonde, il y a une île longitudinale qui est les Philippines en général. Les points de couleur sont les points où j'ai fait des enquêtes sur les épopées et les ballades dans différentes langues. Mais il y a l'île de Palawan, qui a particulièrement retenu tous nos efforts et notre attention, et un grand partage de vie s'est effectué là-bas, auprès des populations qui sont dans le deuxième cercle au sud, les Palawan. Alors, on arrive par voie aérienne dans cet archipel qui est complexe, puisque seulement l'archipel de Palawan comprend 1768 îles. Il s'allonge comme un long bras de terre et nous abordons progressivement le rivage. Et je vais vous montrer comment, dans ce lieu, qui est une réserve de la biosphère, donc depuis 1991, classée par l'UNESCO. Depuis 1981, la communauté européenne soutient et protège les ressources de Palawan et aide le gouvernement philippin à son développement durable, parce que c'est une île d'une particulière beauté et qui a une flore et une faune reliées à Bornéo. Il y a dans cette île un lieu de très grande importance qui est le complexe des grottes de Tabon. Il a été découvert par le docteur C'est un complexe de formation quartzique sur la mer de Chine méridionale. Et il y a eu là une grande découverte dans les années 60, en 62, alors qu'il était ethnographe, il a découvert un site exceptionnel qui s'appelle The Tabon Caves et qui est à son initiative. Le musée national a entrepris des premières fouilles et les constats, les analyses qu'il a faites au carbone 14. Alors, je vous montre le site. Vous voyez les deux trous là-haut, c'est l'ouverture de cette grotte de Tabon. Voilà l'accès par la mer. Et les travaux qu'il a faits dans ce lieu magnifique, éclairé par la lumière du soleil qui entre de la mer, qui vient de la mer, et le couchant y est particulièrement lumineux. Il a mené une campagne de fouilles. Et dans les années 70, 62 d'abord au tout début, puis 70, où il nous a invités à travailler avec lui et à découvrir Palawan. Et c'est ainsi Dr. Robert Fox, qui est le premier personne citée dans La pensée sauvage, premier chapitre, en référence à ses travaux sur la connaissance de la nature des actas. Des aétas du nord de Luçon. Mais il a beaucoup travaillé sur Palawan, bien sûr. Et nous avons donc à la preuve, voilà d'ailleurs ses travaux dans cette grotte magnifique qui est datée depuis, on a vérifié en 2004, une publication a permis par une équipe franco-philippine dirigée par le docteur Sema de vérifier les datations effectuées par le professeur Fox, qui est là sur l'image, et qui ont confirmé ces découvertes par la méthode uranium-thorium. Plusieurs datations s'échelonnent de moins 16 000 ans à 47 000 ans BP, et ils ont trouvé 11 restes humains présentant des caractéristiques d'Homo sapiens anatomiquement modernes. Ces travaux ont été faits par François Détroit en 2004, publiés. Donc, le plus ancien assemblage d'outils lithiques est daté de moins 50 000 ans par du carbone associé dans la stratigraphie. Nous sommes donc en présence d'un site majeur qui est désormais mis en relation avec d'autres fossiles Homo sapiens de Nia, à Bornéo, dans la région également de Gunung Sewu, à Java-Est. Et désormais, depuis 2012, une équipe internationale pluridisciplinaire est en place, qui s'appelle PRECEA, Prehistory of Southeast Asia, et qui retravaille sur ce site, car il s'avère majeur. Donc, les populations que j'étudie sont installées depuis longtemps, mais pas depuis moins 50 000 ans. Il y a d'autres populations à Palawan très importantes, qui sont très importantes, très petites numériquement, mais très importantes dans l'histoire de l'expansion des populations austronésiennes, qui sont des peuples négritos. Ils s'appellent des Bataks, ils n'ont rien à voir avec les Bataks de Sumatra, mais les premières migrations commencent à moins 4000 ans et viennent, l'expansion vient du sud de la Chine. Elle va vers Taïwan et en moins 2000, elle commence à descendre encore. L'expansion se fait vers le nord des archipels des Philippines et descend. Et c'est une expansion immense qui s'élargit vers le sud, puis d'ouest en est sur 20 000 km qui s'enchaînent. Et tout au long du temps, les Austronésiens ne forment pas un peuple biologiquement uni. Par contre, les langues qu'ils parlent sont de la même famille. Donc, quand je fais allusion aux locuteurs des Philippines comme ceux de l'Indonésie, ils sont d'ascendance asiatique récente, entre 2000 et 1800 de notre ère, à l'exception précisément des chasseurs-cueilleurs que j'évoquais tout à l'heure, négritos, qui sont des aétas, acta, ati, que l'on trouve dispersés dans l'archipel et qui sont de toute autre ascendance, mais parlent aussi des langues austronésiennes. Ils sont arrivés via Bornéo au cours du Pléistocène, c'est-à-dire aux alentours d'il y a 50 000 ans BP. Tout cela est travaillé par les archéologues, Peter Bellwood notamment, et tous les archéologues in situ. Et des recherches génétiques sur les négritos sont en cours, tout comme des recherches sur les anthropologies physiques, sur la dentition est également en cours. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, l'expansion est très rapide vers l'est, vers Timor, et l'ouest de la Nouvelle-Guinée, vers le sud de Bornéo, vers Sulawesi, Java, Sumatra, la péninsule malaise, et plus tard vers le centre du Vietnam. Par contre, la migration qui s'effectue vers Madagascar et la Polynésie date plutôt, est plus récente, elle date du début de notre ère, et vers la Micronésie orientale aussi. Et donc c'est une histoire extrêmement complexe, dense et profonde dans le temps, dont nous sommes en partie, vous le verrez, des témoins. Alors, j'arrive à qui sont les Palawan. Ils vivent dans la partie méridionale de l'île que je vous ai montrée. Et ils vont... je vais les définir brièvement. Chasseurs à la Sarbacane, agriculteurs sur brûlis, ils sont à la jonction de ces deux modes de survie. Ils pêchent également dans les rivières, font la cueillette de nombreux produits de la forêt tropicale. Ils ont donc, par les SARS, sur une surface assez réduite, un écosystème complexe qui associe les céréales et les plantes bouturées. Mais cette pratique culturelle exige la possibilité de faire des rotations de 10 à 12 ans afin que la forêt ait le temps de se régénérer. Donc vous verrez qu'un massif montagneux qui culmine à 2085 mètres, le mont Mantalingayan, qui est le troisième pic des Philippines, est un véritable château d'eau et il forme une unité géographique qui s'avère également culturelle. Alors, vous regardez la carte des populations, c'est sur cette partie qui est ce véritable château d'eau, Mantalingayan étant ici, et plus particulièrement entre ces deux vallées que j'ai travaillé. Charles MacDonald a travaillé dans 5 régions, Punong, Quezon, Kulbe-Kanipahan, et bien sûr aussi les Hautes-Terres. Il a appelé culture des hautes terres, cette région très homogène qui contraste avec les régions des collines, des plaines, du littoral et sur lesquelles je me suis centrée. Pour étudier la langue de façon monographique, et après j'ai fait une étude des variations dialectales et j'ai identifié 11 dialectes, il y en a peut-être plus, dans ce périmètre qui représente le sud de l'île. Pour les hommes véritables, je traduis littéralement Taobanar, que nous sommes, que sont les Palawan, il n'y a pas d'autre unité sociale que la famille domestique et le groupe local. Donc c'est une société qui n'est pas hiérarchisée, qui n'est pas organisée politiquement. C'est une société où, dans le groupe local, un groupe de sœurs autour desquelles viennent s'agglutiner les époux forme un hameau de 4, 5, 6, 7 ou 10 ou 15 maisons maximum. La résidence est donc uxorie locale et c'est là une situation que l'on retrouve dans de nombreuses cultures aux Philippines, à Bornéo et dans la péninsule malaise. entre les âmes véritables, la règle, l'éthique, est fondée sur l'obligation de tout partager. Il n'y a pas véritablement d'échange entre les Palawans, car il n'y a pas de possession de quoi que ce soit. Ce qui est chassé, collecté, cultivé, tout fait l'objet d'un partage que l'on souhaite égalitaire. Et selon des modalités différentes, selon qu'il s'agisse du sanglier capturé en forêt, des produits collectés dans le champ ou du riz qui fait l'objet d'un partage particulier. Il y a donc, dans le monde phénoménal qui est le leur, trois autres sortes d'humanité, de Tao. Les Tao Manunga, les bienveillants, je traduis littéralement, et les Tao Marat, les malfaisants. Mais il y a aussi les Ampoat, les maîtres d'eux, les maîtres des sangliers, le maître des oiseaux, le maître de chaque objet, des arbres, de chaque objet dans la nature, de chaque phénomène naturel. Ces maîtres sont des pourvoyeurs de gibier, de bonnes récoltes, des dispensateurs de savoir. Mais le maître des sangliers dit bien qu'il donne au Palawan un de ses enfants. Le maître du riz fait fructifier les épis dans le champ ou fermenter le jus dans la jarre si la musique des gonds est jouée pour l'enchanter. Les Tao Manunga, les bienveillants, vont faire don de la parole rhétorique et du chant d'une épopée qui sera à son tour offerte une nuit durant par le groupe local au maître des sangliers. Vous voyez la circulation des dons et les transferts de dons. Et puis il y a ces Tao Marahat, ces malfaisants, qui sont des humanités cannibales et qui vont pléthore d'ogres et de succubes qui vont capturer l'âme des hommes vrais, des hommes véritables, que sont les humains à notre image. Donc les hommes évitent de fréquentent, les évitent, les affrontent, et ils ne sauraient se défaire de ces autres humanités, car une fluence, une fluidité permet une sorte aussi d'empathie, intègre tous les existants dans le monde phénoménal, et la manifestation particulière d'une vision particulière se love dans le principe de communicabilité qui les unit dans ce monde habité où ensemble ils doivent évoluer, c'est-à-dire se sustenter, partager selon la morale de l'entraide, taban, du partage bagui, que je mentionnais tout à l'heure, et de la parité dans les échanges, gante, qui, ces trois principes, régissent cette société, et nous allons voir quelques implications. Alors, pour appréhender ce monde habité des montagnards, nous suivrons quelques-unes de leurs actions et les perceptions qu'ils ont du paysage, le jour, la nuit. Et ce faisant, nous allons plusieurs fois changer d'échelle, ce qui est une expérience qu'ils partagent avec nous, mais sur d'autres modalités. J'aborderai enfin le paysage sonore. Et la réalité est un continuum. Dès lors qu'on pose des limites, on ne voit le réel qu'à partir d'une projection d'échelle. Tout l'effort va consister à décloisonner ces angles de vue liés à chacune de nos disciplines et nos traditions analytiques et de tenter d'accéder au regard sur ce continuum que portent les Palawans eux-mêmes. Donc, tôt le matin, le 20 mai 1970, sur un tracteur, je suis partie et je vais essayer de vous faire faire le voyage dans le paysage que j'ai effectué dans les jours qui ont suivi. C'est sous forme de diapositive avec du son, si je peux l'animer. Comment faire? Il faudrait que je puisse sortir pour aller ici. Il y a eu un problème de... Voilà. La suite, quand on monte vers l'amont. Quand on monte vers... Et qu'on entre dans la forêt. Balud du Kulaunia. Maison des champs. Grenierry. Grenierry en construction. Bactique qui donne la résine à la plante, Agathis philippinensis, et un mot entre les deux vallées. Il faut bien repérer la position de la poutre fêtière. La grande maison de réunion. Bangima. L'extérieur. L'intérieur. Excusez-moi, je dois me remettre en place. Nous venons de voir cela. Et maintenant, je souhaite vous montrer, avant de passer à l'analyse, quand on franchit le mont Mantalingayan et que l'on passe de l'autre côté, on ne change pas de langue. La rupture linguistique est dans les barrières, les frontières des vallées parallèles. Donc quand je passe à travers la montagne, quand les montagnards passent de l'autre côté, Liao, ils se retrouvent dans les vallées de Ransang Kanipan, où il y a ce paysage extraordinaire de grottes qui prolongent les grottes de Tabon que je vous ai montrées initialement. Dans ces grottes, je vais l'expliquer après, vivent des hommes de nos jours. Et c'est pourquoi j'ai fait allusion à la préhistoire, pour vous montrer ce que l'ethnographie de nos jours permet aux préhistoriens de voir d'un mode de vie qui n'est pas forcément celui qui fut, mais qui a une simplicité et une technologie et des matériaux et des modes de construction qui sont particulièrement intéressants. Alors, je vais prendre là et allumer. Je suis avec les photos magnifiques de Pierre de Vallombreuse qui étaient exposées en partie au musée du Quai Branly lors de l'exposition qui a eu lieu au printemps dernier et qu'il a eu la gentillesse de partager avec moi à cette occasion. Il est souhaité être là, mais il ne peut pas être là. Alors, je vais, suite à cette immersion visuelle, où avec beaucoup d'attention, vous avez peut-être repéré des choses, surtout quand vous êtes anthropologue, permettez-moi, pour amorcer les formes du paysage, d'évoquer brièvement le mythe, un complexe mythique très dense que Charles MacDonald a recueilli en 29 variantes, et je ne vais considérer qu'une variante qui est celle de la région où j'ai le plus travaillé, qui est la variante MP26 de la Macagua. C'est le mythe de Tambog et Bihang qui sont les façonnateurs des éléments majeurs des formes du paysage terrestre, mais aussi en partie céleste. Le corps et les actes de ce géant, qui a des attributs phalliques très, très caractéristiques, les gestes, les parures et les objets de son épouse sont autant d'artefacts qu'ils ont prodigués aux hommes, à savoir le bâton de marche de Tambo qui devient le pilon indispensable pour piler le paddy, dans le mortier qui est creusé dans un tronc monoxyle à l'image du vagin de sa femme, Bihang. Ce geste de piler s'avère si efficace que Tambo lui-même l'emprunta aux hommes en alternance avec son épouse, et ainsi ils purent élever le ciel qui, de son poids, pesait sur leur tête et les accablait. Bihang, à la demande de son époux, en outre façonnait le rivage que je vous ai montré initialement. En pêchant à l'épuisette, elle a dessiné les golfes, les baies et les anses du rivage. Puis elle alla pêcher en mer, en haute mer. Ainsi, les hommes purent ramasser les coquillages sur l'estran, se nourrir des produits de la pêche en mer et s'abriter du vent violent, de la mousson notamment, dans les golfes et les forêts. Selon une version, la version que j'ai étudiée, après le décès de Bihang, esselé, ce géant choisit de se donner la mort en se frappant son pénis avec une bûche incandescente. Son corps meurtri et gisant devint le relief très accidenté de la cordillère centrale. Et cela, recouvert de terre, à sa volonté. Il en a eu le désir, le souhait, il l'a formulé ainsi, afin qu'il devienne montagne, afin que mon corps devienne montagne, la chaîne s'étendant entre deux mers. Donc il y a une, sinon une intentionnalité, du moins un souhait clairement formulé par le démiurge. Tandis que son urine et ses chairs décomposées, ruisselant sur les versants, ont creusé les multiples torrents et les vallées qui se jettent dans l'océan et en font une mer salée. Le collier des perles de Bihang projeté dans le ciel devient l'amas scintillant des Pléiades. Cette constellation est étroitement liée à la culture du riz, tandis que son peigne Kurdvilin devint croissant de lune et du côté de Tambog, il est lié, lui, à la chasse et au ce que nous appelons le baudrier d'Orion, qui est une partie d'un piège, qui est le piège à propulseur, pour capturer les sangliers. Dès ce moment principiel, relatif aux formes d'un macro-paysage, le mythe opère une transfiguration in situ du corps de ce géant phallique, tandis que par des actions liées aux travaux de la vie quotidienne, comme piler le riz au mortier, pêcher à l'épuisette, au filet en haute mer, son épouse est le façonnateur. Elle est aussi impliquée dans l'élévation du ciel, nous l'avons vu, et dans le dessin du contour du rivage de l'île. À eux deux, par leur corps, leurs artefacts et leurs actions conjointes, ils n'ont pas créé le monde. C'est Naxalad qui s'en est chargé. Et je n'ai pas abordé le mythe de création du monde. Ils ont façonné, à une grande échelle, la totalité du relief, de la morphologie de l'île. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans l'espace où les hommes se meuvent quand ils marchent, chassent, évoluent dans la forêt, le champ, le hameau, la maison, quels signaux dans le paysage. Et je vais commencer en l'illustrant par des actions masculines, mais qui se conjuguent avec des actions féminines. Dans un deuxième temps, je vous montrerai les actions des épouses, oui, à l'égard du riz, mais très brièvement. Je vais maintenant aborder par quatre petits extraits de films qu'a fait Hermine Schoeffler, qui est une jeune en train de finir son doctorat paléontologue avec laquelle je travaille, que j'ai amenée à Palawan et avec laquelle je travaille un peu, et qui ont été faits en 2011 avec de meilleures caméras. Et voilà ce que ça donne. Vous allez voir ce qu'est l'acte de marcher à Palawan. Voilà.
Salari. Tananjo.
Nous mangeons cela en tatare.
Moksom la. Je l'ai tomé à l'imo pour y remettre.
elle détache de cette libération le feu. Quelle langue? Fin. Film suivant. Coupe d'un cœur de palmier pour dégager le cœur de palmier. C'est un énorme travail. Vous avez entendu?
Allez, qu'on
l'artiste.
Qu'est-ce? Allez, qu'on l'artiste. Pas de bungo.
Voilà ce que nous dit Bungao. Bungao est un mauvais, un invisible.
Ah.
Donc, ils sont en train de couper un cœur de palmier. Ils entendent un son. Il identifie un invisible, la présence d'un invisible qui parle. Troisième, petit film. Ah non, pardon. Comment je passe au troisième? Non, c'est le même, pardon. Non. Je voudrais vous montrer le film suivant. Pour le même. Bon, j'avais quatre petits extraits. La troisième est liée à la marche ascensionnelle ou à la descente. Et c'est ça ce que j'aurais voulu vous montrer. À travers deux actions technologiques, vous avez vu la présence des invisibles, une forme de cueillette en forêt, comment on mange un fruit en forêt. Mais j'aurais voulu vous montrer, et je ne sais pas comment faire. C'est pas ça. Voilà, peut-être c'est ça. Voilà, la descente. On en a qu'une. Dans ce paysage escarpé, très escarpé. Et j'aurais voulu montrer aussi la montée. Mais
en tout temps.
Non, bon.
Ça l'arrête.
Ce n'est pas grave. Nous nous passerons de la montée. C'est un bref petit flash qui montre l'ascension après la coupe la coupe d'un palmier sagou, de sagoutier, pour rapporter l'énorme tronc que l'on va travailler pour avoir le natok. Donc, je voudrais maintenant vous montrer comment on se déplace dans l'espace. Toutes les formes de déambulation d'une personne, de déplacement, de localisation d'un objet ou d'une personne, de construction de la maison, du greniari, de performance d'un rituel, passe par un schéma d'Orient précis qui est fondé sur la géographie. Pour marcher, on suit le lit de la rivière, l'essente connue de tous qui serpente à flanc de coteau et toujours très étroit et incliné vers le précipice. On est en présence de courts segments orientés. Mais comment se situe l'homme? En effet, l'homme est toujours dans le paysage. Il ne l'a pas devant soi, comme s'il en était séparé. Le paysage prime, le sujet est situé en son sein et à l'inverse de notre système référentiel et de nos catégories en français, nous disons devant, derrière, à gauche, à droite. Nous sommes donc égocentrés dans le paysage. Les Palawans, eux, suivent des axes orientés dans le paysage qui vont leur permettre, qui vont permettre à l'homme qui marche, qui se déplace ou qui agit, de se situer, de se repérer, de se diriger. Nous avons l'axe amont, en allant vers l'amont, qui a toutes ses connotations, puisqu'il est pertinent à tous les niveaux, du grand paysage ou du village ou à l'intérieur de la maison. Puis l'axe inverse, c'est aller en vers l'aval. Et vous voyez la poutre faîtière perpendiculaire à la déclivité de pente. Et enfin, le troisième axe est perpendiculaire à ces deux axes qui s'opposent, amont, aval, transverse. Donc, voilà les repères pour ces hommes. Et voilà le schéma d'abord, qui représente le schème qui est dans leur tête quand ils évoluent dans l'espace, à savoir l'axe amont-aval que vous avez là. C'est très clair, hein, je pense que vous n'avez pas besoin de flèche. Bon. Lui aussi s'est mis en grève. Voilà, l'axe amont-aval. Mais, l'axe, pas l'axe, la coupe transverse et en plus, l'orient du soleil levant et du couchant qui sont corrélés avec la mousson du nord-est et la mousson du sud-ouest. Voilà très simplement comment on se dirige. Autrement dit, on est dans un paysage géocentré et qui reprend en filigrane le mythe de Tambog que nous avons vu, puisqu'il constitue par son corps la ligne transversale de la montagne centrale, de la cordillère, et que les ruisseaux, les torrents et les vallées, dévalent d'amont vers l'aval, puisque nous sommes dans cette construction où la grande chaîne, avec ce pic de Mantalinga, permet ce dévalement, cette érosion des eaux et ces qui ne sont autres que les chairs putréfiées et l'urine du démiurge Tambog. Donc, la toponymie, je vais maintenant parler de la signalétique dans l'espace terrestre. La toponymie et la topographie d'abord, révèle que les montagnes, rivières et torrents sont les axes principaux entre les hameaux et toujours leurs noms sont motivés. Amas, rivière de cuivre, Mokagwa, triste solitude, Kanipaan, rivière au palmier Nipa. Les noms de formations végétales prédominantes désignent des lieux dits ou une forêt. Kokawayan, la futaie de bambou, Kanyugan, la cocoterie, Kaboktikan, la forêt de Damar, etc. La morphologie du sol, d'une falaise, d'un rocher, d'un ruisseau, désigne les traits et les formes du paysage traversé et sont pour l'homme qui se déplace autant d'icônes et d'indices dans le paysage. Biok, sanglier, est un gros rocher dans la rivière, Naksiburan, ruisseau de la jarre, Nagdarere, un trou d'eau tourbillonnante. Donc, des objets de la vie quotidienne ou le nom d'un arbre proéminent alentour, l'aspect d'un point saillant du paysage sont les référents dans le paysage pour nommer les hameaux, les lieux dits. Lasson, Mortiari, Bungsot, Termitière, moi j'ai vécu à la Termitière longtemps, Mankupas, Isigium, Taoleuil, arbre de la famille des Oulmacées, Magui, Érythrine, tout ça sont des noms de hameaux. Autant de marqueurs de la végétation dans le paysage et de repères pour les hommes qui marchent, ces toponymes forment, avec leurs icônes dans la nature, leur véritable forme dans la nature ou leur qualité végétale, forment un système d'indices et souvent de brèves vignettes leur sont corrélées. Il s'agit alors d'icônes visuelles dans le paysage, du bref récit de leur origine et ces dénominations peuvent également révéler la vie en symbiose avec les invisibles. Ainsi, Makagwa, j'ai l'origine que je vais vous lire, Ce nom, Macagua, jadis les ancêtres ont entendu les paroles d'un homme au bord de la rivière. Macagua, gua, Macagua, gua. Telles étaient les paroles sanglots de cet homme. Mais les ancêtres ne l'ont pas vu. Ils n'ont pu qu'entendre les paroles de l'homme qui les articulait. Aussi les ancêtres ont-ils donné le nom de Macagua, et c'est l'origine de ce nom, à cette rivière. Seules les paroles, ils entendirent, ils n'ont pas vu d'être humain. Donc, c'est en présence d'un invisible dont ils ont capté la parole plaintive qu'ils peuvent nommer ce lieu. Donc, vous avez un grand nombre de repères, de balises terrestres, ce que j'appelle la signalétique dans la forêt. Et sur ce terrain très accidenté, il n'y a pas d'itinéraire linéaire, mais de multiples segments brefs, orientés, en ligne brisée, ascendants, descendants et transversaux. Il y a des points où l'on s'attend, une sorte de nœud entre deux segments d'un itinéraire, le plus souvent nommé, dont témoigne le carnet que j'ai d'un de mes collaborateurs, qui, à ma demande, a rédigé les itinéraires qu'il parcourut. Et en ce carnet, aucun dessin, mais néanmoins une cartographie mentale précise des itinéraires et une mémoire infaillible des noms de rivières à traverser, d'Ipag, des noms des monts à franchir, Taoleuil ou Saramiric, des forêts à traverser pour aller de Tabo à Kangrian, pour aller d'un lieu à l'autre. En changeant d'axe, selon la topographie, la configuration des lieux, et je vois en cette maîtrise la précision référentielle des axes que je viens de dégager, qui résonne à la macro-échelle du sud de l'île, comme le corps de ce géant étalé entre deux mers, devenues cordillères, l'axe transversal, et les vallées creusées par de multiples torrents, l'axe amont-aval, l'axe de l'amont-aval, de ces eaux qui jaillissent de ce corps en décomposition et se jettent dans les mers de Sulu, de ce côté. De l'autre côté, c'est la mer de Chine. Donc, certaines formations sont aussi des signaux de danger, autant de repères des malfaisants, leur lihyun, plus chargé émotionnellement dans le code du paysage qui a pour référent le concret visible, mais aussi le concret invisible, perçu par les sens, connu par l'expérience, intériorisé et mémorisé. Si vous voulez, la nature avec sa part de mystère est vue par l'imaginaire collectif et explicité par la cosmogonie. En effet, ce que nos sens perçoivent en tant qu'humains, hommes vrais, véritables, comme ils disent, n'est qu'une partie de cette réalité humaine diverse et originelle. La réalité actuelle est donc pleine d'existants qui échappent à notre perception visuelle et ils se signalent, comme vous avez pu l'entendre, à nos sens, par l'ouïe ou le toucher parfois. Et dans les espaces forestiers, l'homme qui déambule, qui peut heurter, frôler, tamponner ou être frappé par un autre homme, un malfaisant, mais aussi touché par les effluves des maîtres de chaque type de plante, des animaux ou de toutes les formations naturelles, puisque chacune a son maître. Donc l'invisible n'est pas vide. Il est plein d'autres humanités et bienfaisant, malfaisant, nous l'avons vu, qu'une transgression initiale selon le mythe de la création du monde, alors, auquel je me réfère maintenant, a permis, ne nous a plus permis de voir, car initialement, nous étions capables de nous voir tous. Et cette transgression ne fut autre qu'à l'injonction des démons, des malfaisants, de transgresser la règle de la prohibition de l'inceste sur les cousins au premier degré. Donc, je vais maintenant projeter sur d'autres actions humaines, et notamment le travail des femmes, et je vais évoquer à cette occasion... Ah oui, j'aurais voulu parler des oiseaux liés à... J'ai encore le temps. Je voudrais, avant de passer aux actions liées au riz, je voudrais parler des actions humaines le jour, signes et signaux dans le paysage, avec le lever du jour et le lever du soleil, la journée commence, et souvent par l'évocation des rêves. L'écoute des paroles des rêves est importante, mais je ne vais pas entrer dans ce labyrinthe. Mais l'observation et la direction du vol de tel ou tel oiseau est fondamentale. C'est un ngasa, un omen, un présage, bon ou mauvais, et on perçoit alors la visite ou d'un ami ou d'un invisible, d'un malfaisant. Le jour commence donc avec la mise en garde par les oiseaux. Sapod, quand il fait sakuit, sakuit, qu'il est près de la maison, qu'il vole à votre gauche, il ne faut pas quitter le hameau, il faut faire un déplacement. Il ne faut pas faire de déplacement, il faut rester à la maison. À Palawan comme à Bornéo et en Asie du Sud-Est, les oiseaux sont aussi des présages. Bon, mauvais augure alterne selon le genre, l'espèce et le chant des oiseaux. La direction de leur vol par rapport à l'homme qui marche, le moment de leur apparition, le jour, la nuit, l'approche et l'entrée dans les maisons. Ces petits parcours des oiseaux vont être la plupart des mauvais présages. Les bons présages sont rares. J'ai 13 mauvais présages, 2 bons présages, mais ils sont liés. Il y en a moins que chez les Kenyans de Bornéo qui ont dû changer d'ailleurs leur religion et passer à la religion Bungan pour pouvoir vivre, évoluer dans ce monde. Ils étaient paralysés par le vol des oiseaux. Bon, les oiseaux sont autant de signes, et peut-être faudrait-il les rapprocher. Là, c'est une incise de l'anthropologue. De leur réplique de papier, les cerfs-volants, et interpréter le jeu des cerfs-volants comme des charmes apotropaïques. Évoluant dans le ciel, chargé d'écarter le vaisseau spatial de Pankot, le maître, le grand-père maladie qui apporte les épidémies, lorsqu'en février-mars s'ouvrent les alizés du nord-est, les cerfs-volants volent au-dessus des villages, vent chaud et sec, porteur d'épidémies aussi. Les virevoltes en altitude de ces éphémères créations ailées et leur combat céleste saisonnier au-dessus des hameaux serait peut-être, je dis bien peut-être, la métaphore ou peut-être la réalité d'un combat livré aux invisibles, ces autres hommes et leurs émissaires, les oiseaux de mauvais augure. Les cerfs-volants à arc musical deviendraient éventuellement des repousses démons. Ils sont certes des repousses pour les oiseaux, les mayas, les pestes des champs, mais ils pourraient être aussi épouvantails sonores, tourniquets, moulins à vent bruyant, diaga-diaga, qui s'appelle petit protecteur. Diaga-diaga, c'est petit protecteur. Fichés sur un mât ou sur un axe autour du champ, sont efficaces contre ces pestes, mais peut-être aussi écarterait-il des malfaisants et autres maîtres redoutables, Marlouï par exemple, ce vampire. Et cette présence sonore qui agite l'air à l'orée du village ou en lisière de champs et de forêts pourrait bien donc se situer d'un système d'épouvante et de protection érigé par les hommes. Inversement, Certains oiseaux, qui sont souvent la métaphore d'un humain, souvent d'une femme qui a transgressé un interdit ou qui a commis un excès, comme les 7 jeunes gens qui, se rendant à un mariage, riaient très fort et se sont transformés en calao, selon le mythe. Eh bien, certains oiseaux deviendraient des cerfs-volants bienveillants, annonciateurs, protecteurs, métaphores réciproques et ultimes des épouvantails. Car ce qui importe, c'est bien la relation symbiotique, qui la connivence entre les hommes véritables avec l'agent ailé. Et j'en ai d'autres preuves. Quand je regarde, quand j'écoute l'épopée de Mamoun Bin, les oiseaux sont des... Le baloud sont les compagnons, les conseillers du héros, et ils vont réussir à lui faire faire un mariage, une alliance de mariage parfaite, car symétrique, en l'aidant dans sa quête en épouse. Donc, je ne traiterai pas comment l'homme chasse à la Sarbacane, je l'ai publié ailleurs. Les indices sont fixes, mouvants, furtifs, de cette proie dans les arbres, et cela implique une certaine technique relationnelle avec la Sarbacane. Je ne parlerai pas non plus des hommes qui font les abatis, comment ils choisissent le nouveau champ, maîtrise du temps déjà cher des types de forêts, maîtrise de la nécessité d'alterner et permission demandée aux invisibles afin de ne pas toucher leurs repères et de ne pas leur faire violence dans l'acte d'abattre les arbres pour ouvrir un nouveau champ. Pour les hommes et les femmes qui vont veiller sur la croissance du paddy en juillet-août, qui vont désherber pendant la saison des pluies, souvent dans un champ très éloigné, sans retour possible au hameau dans la journée, ils s'abritent de la pluie, vous l'avez vu, dans des auvents, qui ne sont nullement les auvents, les petites maisons délicieuses comparables à ce qui a été présenté en Asie du Sud-Est chez les lamettes, qui sont plutôt des abris très, très, très précaires, mais qui se doublent d'un lieu de retrait, loin des regards et de l'écoute d'autrui. Et c'est là le lieu privilégié pour la aide qui, solitaire, va s'essayer à chanter les airs des personnages des épopées qui peu à peu s'incarnent dans son corps et sa mémoire, chantant. Aller ramasser les tubercules est une autre action, et les plantes comestibles dans le champ. Aller chercher l'eau en est une autre, et ce double de chant d'appel des femmes entre elles, c'est un moment très convivial, délicieux. Faire la cueillette, pêcher à la ligne en rivière, sont des tâches ménagères au quotidien, un travail conjoint parfois avec l'homme, mais souvent avec les consœurs, et partagé, et nous sommes bien dans une société de partage, en effet. Et je vais essayer de montrer, à travers l'évocation du mythe d'origine du riz, ce qu'est la relation au champ de ces femmes. Le champ est donc vécu comme un espace relationnel et comme un espace essentiel à la survie du groupe. Quand lors de la... Je vais prendre par la fin. Lorsque le riz a poussé et qu'elles se sont... Elles ont beaucoup... Chacune dans son champ, puisqu'il y a un champ par famille domestique. Lorsqu'elles se sont... Elles ont beaucoup travaillé pour désherber, pour que le riz puisse aller, pour sarcler. Quand elles vont moissonner, épi par épi, en prenant un soin très grand de cette graminée, elles se comportent comme beaucoup plus qu'une paysanne qui va moissonner son riz. Elles se comportent comme des mères. Pourquoi ? Le mythe d'origine du riz nous enseigne que un couple avait une petite fille et un jour, un homme du rêve donna une injonction au père de cet enfant en lui demandant de la sacrifier, de couper son corps en morceaux et de le distribuer dans le champ, dans un champ. Il lui dit, vous avez la vie dure, vous ne mangez que des champignons, je vais vous enseigner à cultiver le riz. Après une hésitation, le père accède à cette exigence, procède au sacrifice de son propre enfant sans en dire un mot à son épouse. C'était l'injonction de l'homme du rêve. Il lui demande aussi de sacrifier et de couper en morceaux son chien, Poromata, et de le distribuer. Vous voyez tout de suite se dessiner l'agriculture, les semis au poké, qui vont être la technique culturelle qui va être mise en œuvre quand le riz sera advenu sur la terre. Quand cette mère va dans le champ, je dis bien cette mère, elle sait, elle a dans sa mémoire et dans sa conscience, elle va adopter une attitude qui est celle de prendre soin tout au long du travail dans le champ. Elle prend soin, mangipat, du riz comme d'un enfant qui l'est. Et le champ va devenir, quand le riz s'étale, une nappe, va être comme une nappe inondée, va être d'autant plus beau que cette femme et son mari parfois qui l'aide va bien prendre soin, bien sarcler les mauvaises herbes. Quand elle moissonne, elle ne doit ni crier ni siffler, mais quand elle sectionne au petit couteau à moissonner galit l'épi, elle entend aïe, présence sonore de ce corps qui est chant, qui est riz, qui est vie de l'homme, car c'est ainsi Biagatao que l'on appelle la première variété de riz moissonné. Donc vous voyez, alors je voudrais ajouter que Paramata, le chien, devient les tubercules. Et que, par conséquent, dès cet instant initial, les plantes bouturées sont associées par le même sacrifice, mais pas de la même personne, aux plantes céréalières. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Palawans plantent le riz en ruban, variété par variété. Variété gluante, non gluante, rouge, blanc. J'ai déposé à l'Institut international du riz 82 variétés de riz. Donc, en croisant deux variétés, on forme une troisième variété. On est en présence d'une population, contrairement aux clones, où ils se répliquent, répètent. Mais je constate une attitude parallèle, analogue, entre le traitement de la céréale et le traitement des clones. Puisqu'on va isoler des variétés pour les avoir à différents moments de la période entre août et décembre, on ne ramasse pas tout en même temps. On va au champ entre août et décembre. Et donc, on va avoir un comportement très similaire entre la, par les sélections que l'on fait du riz, les clones qui sont... Et on va les ils sont entrecroisés dans le champ, ils sont associés dans le champ et vont donner l'élément qui manque à la période de soudure, notamment le taro, les ignames et le manioc, vont donner l'aliment de base, alors que le riz ne va fournir qu'un aliment de août à janvier. Février, quand la récolte elle débute. Donc, le mythe met en évidence la notion d'individualité tant au niveau de l'espèce qu'à celui des clones, alors que le riz est perçu et souhaité dans une densité de population qu'il est, telle une surface inondée, mais en, il y a une sorte de... se dessine dans les sars où ces plantes en association sont cultivées, des attitudes culturales distinctes et quelque peu analogues. Il y a, pour servir la fécondité du champ, et de, un petit hôtel qui est érigé dans le champ, qui est le Pinarungan, le lieu où l'on fait s'asseoir le maître du riz. Il est érigé au milieu du champ de montagne et c'est une plateforme très simple, carrée, avec quatre pots fichés de quatre petits balais de feuilles plissées et aux quatre angles et de plantes froides qui vont permettre à la terre de ne pas être trop chaude et permettre la croissance du riz. Par magie sympathique, ce rite simple mais nécessaire entre un homme et son épouse, c'est avec les plantes froides. J'ai 21 plantes froides qui sont posées à même le sol ou posées sur la plateforme, sont accompagnées de cette formule magique toc-tac, que mon riz soit beau, qu'il soit, que ses épices soient égaux, que le grain ne soit pas petit, assez simple et bref. Il s'agit donc, dans l'alternance de l'humidité et du sec, de refroidir la terre afin que le riz cale et d'écarter aussi les pestes des champs. Donc, cet hôtel conjugue l'invitation au phénomène astronomique favorable à la croissance du paddy, l'écartement des insectes nuisibles et nous avons vu par quel procédé. J'ajouterai, pour que le riz soit beau et qu'il faut que j'ajouterai que quand une ménagère vous offre son riz, elle vous dit « mon riz », comme si elle disait « mon enfant ». Et car il est son riz et le résultat de ses soins attentifs, de sa tendre tendresse à l'égard de l'enfant qui est le champ, qui est le riz, qui est le paddy et qui est le riz final, cuit. Puisqu'on appelle la première variété moissonnée la vie de l'homme. Mais j'ajouterai la belle musique des gongs, bassal, qui devient une offrande au maître du riz lorsque le riz croît, lorsque le riz est dans la jarre et qu'on va le consommer en bière de riz. Il est assis sur l'entrée de la grande maison, ne doit pas scier, veille. Et là, le rythme de cette musique de percussion et de couleur est complété par des invocations, sogina, des appels, tinkak, transfigurés en offrande, unsod, et adressés au maître du riz ou au maître des fleurs, selon les rites. Quand le maître des fleurs, il s'agit de l'hydromel. Un dialogue que les hommes vrais établissent avec les maîtres des plantes et qui ne cesse jamais, soit par la médiation de gestes, de paroles ou de musique. Je vais maintenant vous montrer, voilà, le décortiquage du Paddy près de la grande maison. Oui, je voudrais revenir un peu à une chose. Les matériaux sont bois, bambou, rotin. Les constructions sur pilotis, légères, fragiles, éphémères, peu soignées. Les maisons, sauf la grande maison, les maisons petites, une famille conjugale, père, mère, enfant. Et vous l'avez vu dans l'habitat des grottes, sur les trois plateformes, trois familles conjugales. Père, mère, enfant. Le lagoise l'entoure des maisons, les prolonge la maison. C'est un espace défriché avec des plantes ornementales, des plantes médicinales, des plantes aromatiques, quelques plantes nourricières, quelques arbres plantés, des plantes technologiques, semi-cultivées ou cultivées. C'est un fouillis végétal, tout à fait à l'image de la forêt qui les entoure. Les sites des hameaux, alignés en suivant une ligne de crête, vous l'avez sur la première photo là-haut, ou bien à flanc de montagne, ou sur un petit plateau, je l'ai montré dans le film initial, ont tous une poutre faîtière qui est toujours transversale à l'axe amont-aval. Encore une résonance de cette position initiale créée par le façonnateur du paysage. Donc nous sommes à une échelle plus petite, plus à l'échelle du hameau ou de la maison. Et cette orientation tient compte de la déclivité de pente la plus proche de la maison que l'on construit, car il y a souvent aussi des conditions, des raisons de commodité technique, comme me l'enseignait Sophie Clément, pour bien fixer au sol ces petites constructions très légères. Le grenier à riz, lui, offre une ombre hospitalière après la marche éprouvante de l'ascension. Quand on dit « Donciona », nous y sommes, c'est-à-dire qu'on est encore au grenier à riz, on arrive au hameau, mais on n'y arrive jamais à ce hameau. C'est toujours une épreuve d'y arriver. Et en ce lieu, on échange une chic de bétel, une cigarette, quelques nouvelles. Il est un abri amen. La grande maison, c'est la plus solide, elle est avec des pilots de bois. Elle est vaste, vous avez vu son intérieur, elle est superbe, très aérée, très bien ventilée, car il n'y a presque pas de cloison latérale. Ce sont des constructions pour les discussions juridiques, les mariages, les discussions de mariage, écouter la nuit entière des chants des épopées, une vie sociale. Je voudrais évoquer maintenant la grande forêt. Certes, c'est le lieu où évoluent des malfaisants, mais c'est aussi le lieu privilégié de la générosité des hommes bienfaisants, des Taomanuna, qui donnent, bingueuil, aux hommes désemparés devant la maladie, les simples. Ororo. J'ai 695 plantes médicinales dans mon herbier qui est hélas bien abîmé, qui font don aux aèdes des mélodies des épopées, en particulier dans la forêt de Damar, le Kaboktikan. Ce lieu et la nuit sont l'espace-temps le plus favorable, le plus privilégié de l'inspiration créatrice poétique. Alors s'opère une sorte de vacance, au sens d'absence, de vacance de l'âme double du Karudwa, de l'aide endormie, un peu dépossédé de lui-même, plus ou moins détaché de son corps, de sa raison, il est apte à recevoir un principe supérieur à l'image du chaman dans son voyage chamanique. C'est ce que les Palawan appellent le palaplap, se faire toucher par un bon génie démon. En Suki va souffler à l'oreille du Manunultul, de l'interprète des épopées, les mélodies du vent que la canopée des grands arbres va filtrer, modulant ainsi le son. Donc ce sont les héros épiques qui flottent sur la canopée des grands arbres et qui veillent, qui les inspirent aussi par la voix des vents qu'ils soufflent à leur oreille. Alors, cette grande forêt se transforme en un espace poétique. Car c'est le lieu privilégié pour eux pour éprouver le palaplap. Signalétique dans l'espace du ciel. Je change de nouveau d'échelle, je passe à l'échelle. Ah, j'ai oublié de vous... Non, pardon. Oui, je dois descendre. Quels signaux dans le ciel pour agir dans le temps d'une journée, d'une nuit, d'une année? Le soleil est l'astre du jour et donne son nom au jour. 11 partitions de sa position pour désigner les heures du jour. La nuit, on se réfère à des chants, à des somnes de bébé dans un premier temps, puis à des sommes, puis à des... Je ne sais plus, j'ai perdu ma machine. On se réfère à des sommes de bébés, puis d'adultes. Et là, on écoute le chant des coqs, le chant des oiseaux qui commencent, notamment Tangur, à 4 heures du matin. À agir comme des pendules. La lune est l'astre de la nuit qui va donner les partitions du mois. Alors, je vais devoir passer vite. Ce n'est pas un calendrier lunaire que je vous présente. Pardon. C'est l'esquisse. C'est plutôt la mesure des durées dans l'espace-temps du mois et va permettre donc de dire c'est à la nouvelle lune que le mariage d'un tel et d'un tel se passera, la discussion juridique sera pour telle autre lune. Ainsi, on a une balise dans le temps des événements auxquels on convie les gens. Mais ce qui est important maintenant, c'est donc la lune et l'indice du temps qui s'écoule dans la durée d'un mois, une lunaison. Le soleil est l'indice d'un temps qui s'écoule dans la durée d'un jour. L'indice du temps qui s'écoule en une année est un ensemble de 11 astérismes qui sont marqués. Là, je suis sur le FK4 hémisphère nord, car je suis encore dans l'hémisphère nord, bien que je vois des constellations de l'hémisphère sud, notamment la Croix du Sud, puisque je suis en latitude plus 9 au sud de Palawan. Alors, 11 astérismes, en majorité sur l'écliptique, sont pertinents. Et en saison sèche, ce sont le ciel est clair, donc on va pouvoir observer à l'œil nu la trajectoire de 5 astérismes. Je parle d'astérismes pour le dissocier de nos constellations. Sinon, vous allez voir partout la grande ours, il la regarde, mais il la voit autrement. Il la voit sous la forme d'un bateau, d'une pirogue, avec un pêcheur à son bord. Je vais vous montrer ces schémas. Donc, on perçoit en saison sèche, car le ciel est clair, la trajectoire de 5 astérismes compacts corrélés en succession rapide. l'ascension au crépuscule du soir, le passage au méridien et le crépuscule et au crépuscule du matin et la déclinaison sont les mouvements des positions focalisées. Alors, en saison sèche, quand on regarde ces mouvements, la constellation est pertinente. En saison des pluies, le ciel est voilé. Qu'est-ce qui est pertinent? Précisément, la constellation qui est tombée derrière la montagne, celle qu'on ne peut plus voir et qui on reverra 6 mois après en levée Héliac. Donc, en fait, ce serait donc une translation spatiale qui commanderait, qui régirait le temps et les périodes de l'année. Eh bien, en fait, je pense que ce sont plutôt les travaux des champs qui vont déterminer les époques de l'année et non l'inverse, puisqu'il faut se conjuguer avec les éléments météorologiques et notamment l'arrivée de la mousson. Et en conséquence, dans les séquences des époques de l'année, le découpage n'est pas équitemporel. Les Palawans n'ont pas établi une partition abstraite, comme nous, du cycle annuel. Ce qui est premier et constant, c'est bien l'astérisme. Il est marqué parce qu'il est lié à une étape des travaux dans l'Essa, et ces derniers sont de longueur variable. Donc on va avoir... Voilà la silhouette dans la mosaïque du fond du ciel. Voilà les motifs qui se dessinent et qui, selon la mythologie, se subdivisent en 5. J'ai mis 4, mais c'est 5, puisque le troisième niveau des motifs en comprend 2, à savoir l'élevage des poulets, c'est le seul élevage que pratiquent les Palawans, et les deux arbres, l'arbre planté et l'arbre coupé, qui symbolisent la culture sur Essar et la plantation des cocotiers. Donc, vous avez là des outils, des objets, des personnages. Asok, ici, dans la voûte céleste, Asok, qui est lié à Asoka, bien sûr, mais seulement par son nom. La croix du Sud, qui est la croix du Sud, qui est là, et qui est la représentation du poisson-globe. Vous avez la termitière, vous avez donc les insectes, les poissons, le sanglier, dont voici la mâchoire, avec l'icône, le contour de l'animal réel. Les Pléiades sont un amas scintillant, pas de problème. Le piège à propulseur tendu et détendu après avoir touché la mâchoire du cochon. Évidemment, là, les motifs de cette mosaïque dans le ciel sont rendus par séries mythiques et par motifs. Ce n'est pas ça qui représente leur succession dans le temps. La succession dans le temps, la voilà. Elle donne la partition entre la saison de la pluie et la saison de la chaleur. Mais c'est ici que commence le cycle agraire, en janvier. Alors, sur le contour de... Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais sur le pourtour, vous avez le nom des constellations. Ici, vous avez nos partitions. Et là, je marque les différentes durées des périodes qui vous montrent qu'il s'agit bien d'un almanach et non pas d'un calendrier. Donc, de toute évidence, les astérismes, les mythes, les travaux et les jours, dans la contrainte géoclimatique de l'Asie subtropicale et du régime de pluie de la mousson où vivent les Palawans, de toute évidence, tous ces éléments sont corrélés. Et ces images célestes en mouvement constant fonctionnent bien comme une pendule, annuelle et signalent aux hommes les travaux à accomplir dans l'Essar ainsi que certaines activités particulièrement favorables dans la nature sauvage liées à l'alternance climatique de l'humide et du sec, Bharat Bulag, croissance des champignons, chasse, etc. On est donc, quand l'observateur Palawan terrestre rapporte les mouvements apparents du ciel aux artefacts et aux techniques d'acquisition qui les entourent dans leur vie sur la Terre, on est en présence de 7 outils, deux objets personnels, 5 personnages. Les techniques agroalimentaires, je l'ai vu, et le motif des arbres. Mais les mythes sont dans cette société au service des observations empiriques des hommes. Ils rendent compte, en termes de sensibles, d'une réalité sensible et viennent a posteriori illustrer, expliquer, justifier quelques icônes des personnages, des animaux, des plantes et les histoires brèves qui se nouent entre eux, à savoir les configurations et les trajectoires de ces astérismes pertinents. Et j'ai dit que sur les 19, il y en a, peut-être je n'ai pas dit, il y en a 11 qui sont pertinents de nos jours, ce qui implique autre chose sur lequel je ne peux pas m'attarder. C'est cette vie animée des hommes et des outils, et chacun lentement suit sa trajectoire dans le ciel de la nuit tout au long d'une année. Autrement dit, je pense que le ciel étoilé déploie aux yeux des Palawans une mosaïque plutôt qu'une fresque avec des étoiles qui forment les éléments de cette mosaïque, de leurs activités terrestres, mais ces icônes deviennent des indices des travaux et des jours. Et voilà la succession. C'est-à-dire ce que les hommes doivent accomplir sur la Terre. Alors, corrélé à tout cela, viennent d'autres signaux des ancêtres, et un almanach dans la nature, la floraison de fleurs, la floraison de certains arbres, l'arrivée des oiseaux migrateurs. Je dois passer trop vite, mais je voudrais aller maintenant à l'espace médian. Oh là là. L'espace médian a pour principal et l'espace, bien sûr, de maintes humanités qui évoluent, qui ont droit de circuler en tous sens, mais aussi de Barat et Boulag, de la pluie, de la chaleur. Ils ont, lors de ces deux saisons, deux personnages importants, les nuages et les vents, mais aussi Maître Tonnerre, qui va générer une crainte considérable dans l'esprit et le cœur des Palawans, notamment de la région où il y a les grottes. Et ils vont fuir dans ce paysage, se mettre à l'abri, se soustraire au regard de Kuyao, qui les prend en étau avec Tandaya. Car s'il y a trop de pluie ou trop de chaleur, c'est Tandaya, le dragon souterrain, et Kuyao, le maître tonnerre, qui saisissent sur la terre les hommes et les écrasent de leur force, puis de la puissance ou de leur pluie diluvienne ou de leur déluge, de leur tsunami. Donc, comme Palawan vient de subir une très grande... les Philippines viennent de subir de grandes dévastations, je voulais vous montrer comment les Palawans interprètent la cause de cela, et c'est toujours une faute humaine, c'est-à-dire une faute morale qui détermine ces événements telluriques, atmosphériques, puissants et dévastateurs. Ce qui vous montre le lien qui les unit à toutes les composantes de ce cosmos, n'est-ce pas ? Atmosphérique, tellurique, inframonde, espace médian, espace céleste, tout est convoqué. Je voudrais maintenant vous montrer ce que sont les phénomènes qui vont unir le principe de communicabilité dans le monde phénoménal. Les phénomènes qui vont unir les hommes et tous les existants sont essentiellement sonores. Je l'ai dit, une sorte de perméabilité, de fluabilité entre tous les existants est active. Et j'ai tenté de montrer comment, en milieu forestier, cette relation se joue, s'observe, se vit. Car des messages sont émis par les uns et les autres, envoyés, reçus, échangés, sont compris. Et c'est une relation à la fois ludique, cinégétique, alimentaire, émotionnelle, affective, esthétique, qui unit les hommes, les oiseaux, tous les animaux et toutes les entités du monde phénoménal, les arbres, les insectes, les rochers, outre les autres hommes. Donc, une forme d'intersubjectivité se trame entre humains et existants. On est alors en présence d'une projection anthropomorphique, mais réciproquement d'une relation mimétique des hommes envers les animaux, les invisibles, et cette relation crée l'espace de communicationnel intense que je vais aborder, c'est-à-dire les actions vocales et les actions musicales. La notion importante, je vous montre plusieurs exemples de translation des bruits, des sons, des bruits de l'eau, mais il y en a beaucoup plus, je n'ai pas pu mettre la totalité. Pardon. Effectivement. Les bruits de l'eau, les bruits, les cris des animaux, mais il y a les bruits de la terre, les bruits du vent, les bruits de tous les instruments de musique, les bruits de tous les outils. Tout cela est d'une immense richesse. Alors, tout cela est fondé sur la mimésis, qui n'est pas une simple imitation, comme l'écrivait Aristote dans la Poétique, mais qui n'est pas calque ou copie, mais création. Or, dans les langues parlées, le son, la vie et le mouvement créent des représentations iconiques. Et les idéophones, plus que les onomatopées, constituent des représentations iconiques, car ils sont une tentative de reproduire le mouvement, les manières, le son, les chants, et de dénoter une qualité particulière de l'objet, de la chose représentée. Il y a donc des icônes sonores, comme il y a des icônes visuelles, selon la définition de Charles Sanders Peirce, d'une icône. Mais dans le cas des icônes sonores, le son imité se coule dans le système phonologique et syllabique d'une langue particulière. En ce sens, il n'y a pas d'icône ou d'idéophone universel. Tout est filtré par une langue. Beaucoup de langues possèdent des idéophones, mais certaines plus que d'autres. Et je pense que les langues, le palawan et les langues des Philippines, en possèdent beaucoup. Le français aussi, d'ailleurs, à ma grande surprise. Il s'agit donc de cette part du lexique vouée à la création langagière. Mais, alors, on redublique une syllabe, je dois passer. Mais je voudrais vous montrer que maintenant, une deuxième translation peut s'opérer, des bruits, des sons et des chants du monde phénoménal, à la langue et à la musique. Pardon, à la langue, j'aurais dû vous montrer comment on forme à partir d'un chant monosyllabique par une sorte de pression-expansion de la structure syllabique. La langue génère un mot racine polysyllabique et exprime l'acte de chanter par un verbe spécifique au chant. Il n'y a pas le mot chanter, qui est canta, qui est le mot espagnol, et dont ils ne se servent pas. Il y a un mot spécifique pour chaque animal pour l'acte de chanter. Animal chanteur, bien sûr. Si l'oiseau n'est pas un oiseau chanteur, donc signifiant et sonifié deviennent consubstantiels l'un à l'autre et forment un mot racine et ses dérivés qui sont le nominal ou le verbal. Et dans la formation, deux possibilités se présentent. Si le cri de l'oiseau est monosyllabique, le redoublement est automatique et précédé par un préfixe. On est dans des langues agglutinantes qui se jouent comme des Legos. On a des suffixes, des infixes, des préfixes, des infixes, des suffixes, avec l'inflexion aussi. Donc, si vous devez faire un verbe, vous n'avez qu'à ajouter un préfixe mag ou un infixe oum, et à partir de la racine ou du mot racine que vous avez généré, vous avez le verbal. Si le cri est plurisyllabique, il est retenu en intégrale, et c'est bien l'idéophone qui est produit. Alors, je voudrais vous faire entendre. Peut-être je vais prendre. Je n'arrive pas à voir sur mon ordinateur. Je vais prendre le premier.
Hahawi. Hi hahawi.
Bon, hi hahawi.
Hi hahawi. Cricket, cricket.
Cricket, cricket. Bon, il y a une. Le son n'est pas suffisant là-haut. Si je prends celui-ci.
Simpa devata. Oh, tampanisi.
Tampanisi. Si.
Si, 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 si. Tampanisi.
Ok. Donc ici, vous avez un oiseau imitateur.
Cricket, cricket, hi, hahawi. Cricket, cricket, hi, hahawi. Hi, hahawi. Ciao, 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 ciao. Pis, 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 pis.
Donc, cela vous donne comment l'idée vous permet de capter auditivement comment le mot est formé. Maintenant, nous allons aller à une autre translation qui est vers la musique. On peut, si vous voulez, cette sensibilité des hommes des hauts va stimuler une créativité rythmique et mélodique. Une échelle musicale est réservée à la petite musique des choses et de tous les existants. Et là, on va voir, par le toucher oiseau, qui est une tablature, qui est aussi l'échelle oiseau, sur un luth à six frettes, sur des guimbardes ou sur la flûte, comment la musique bagit, la musique oiseau, est une imitation du chant et des manières des oiseaux, des insectes, des animaux, mais des plantes, des lianes. Et je vais vous en donner une illustration. Je vais prendre peut-être celui-ci. Il s'agit d'une corde dont la friction est décrite. Ici, je prends au hasard. Et là. Un insecte. Tout ça à la guimbarde. Hein? Je vais devoir vous montrer sur le luth. Et là, je prends pic-piac. Un oiseau. Vous voyez, c'est une musique cyclique. Avec petite vignette sonore. qui donne à voir ce que la musique donne à entendre de cet oiseau. Donc, vous voyez, on est dans une mimésis exquise et très ténue, très fine, très délicate, que je voudrais arriver maintenant à ma petite conclusion, si vous me permettez. Je l'ai perdu. Excusez-moi, il faut que je retrouve ma conclusion. 2 secondes. Je voudrais, pendant ce temps, peut-être donner à voir le chien et à entendre. Voilà. Le chien. Et le soir, les enfants jouent beaucoup. Mais ce qui est très important, c'est que les montagnards s'identifient à la musique des oiseaux. Il n'est pas question pour eux de jouer la musique des basses terres, car la musique des oiseaux est liée à la chasse. Et si on joue la musique Koulilal, qui est une musique alienne, qui vient des populations islamisées du littoral, une musique de séduction qui est une invitation à l'adultère, ils pensent qu'ils seront menacés dans leur aptitude à chasser. Donc c'est un clivage culturel très fort, un marqueur, et un clivage avec les basses terres. Par contre, dans le Piémont et les basses terres, on a pu... on peut jouer cette musique. Je vous laisserai sur cette dernière image pour brièvement essayer de rassembler tout ce que j'ai dit. À savoir que les formes du relief, si je fais un déchiffrement des principaux éléments du paysage à une macro-échelle, l'échelle géographique, terrestre, atmosphérique et céleste, je vois que les formes du paysage, ainsi que certains astres, sont des icônes du corps et des gestes de Tambouk et de son épouse. Le schème des orientations spatiales pour l'homme qui marche reprend et corrélé à leur corporéité, leur posture, leurs gestes, mais aussi leur mort et l'intentionnalité de Tambouk qui choisit le suicide et assigne aux humains de considérer son corps comme la montagne qui s'étend entre les deux mers. La topographie ainsi que la toponymie est iconique, nous l'avons vu, j'espère que vous l'avez retenu, la densité de la végétation. Les 19 astérismes sur le fond du ciel nocturne sont des icônes, des outils et des activités humaines. Les forces de Maître Tonnerre, de Kouyao, les pluies et les vents et la foudre dans l'espace médian et celle de Tandayak dans les abysses tiennent les hommes de la terre en étau et contrôlent leur conduite. Leurs paroles de châtiment sont la foudre, le tonnerre ou un déferlement d'eau qui surgit de l'inframonde, et ses sonorités d'une terrible intensité justifient qu'ils se mettent à l'abri dans les grottes que vous avez eu le privilège de voir tout à l'heure grâce aux photos de Pierre de Vallombreuse. Sont donc les indices de phénomènes atmosphériques liés au régime de la mousson, à son arrivée notamment, fin juin, début juillet. À l'échelle de la vie de la forêt, du champ, des maisons, une échelle plus réduite, plus intimiste, le Talun et l'ensemble de la nature sauvage est à la fois nourricier. Le Talun comporte 10 catégories de forêts. 10. entre toutes les forêts de repousse, les étapes de la forêt de repousse, les jachères, donc entre toutes les jachères, plus les cogonales, plus les grandes forêts, Rupa, et les forêts de caboctican et de diptérocarpe. Tout cela ont différents noms de forêts. Mais la nature sauvage est vécue comme un lieu dangereux. C'est aussi le lieu de la folie, du désespoir, du grand chagrin, où l'on cache ses larmes. C'est le lieu de l'adultère. Et c'est le lieu où on va se débarrasser des morts. On les met, il n'y a pas de cimetière. On les met en forêt le plus loin possible du hameau, afin qu'ils ne reviennent pas. Sous forme de mangoutes, de revenants. Et donc, c'est le lieu où ces taomarat évoluent constamment et sont toujours en quête de partage, car ils doivent se sustenter. Ils sont toujours prêts à frapper l'homme qui passe, l'homme qui marche, l'homme qui chasse. Mais la Gobba, la grande forêt des diptérocarpes et surtout de Damar, est un lieu privilégié. Je vais essayer de vous le montrer brièvement, où les bons génies vous donne l'inspiration poétique et musicale. Dans toutes ces forêts et dans l'entour des maisons, vous l'avez vu, les oiseaux sont omniprésents. Et ces derniers sont souvent la métamorphose d'humains. Ils émettent des paroles chantées qui les identifient et que les hommes se plaisent à imiter. D'où ce vocabulaire des idéophones, d'où cette musique bagit, qui sont des icônes sonores, répétitives, à leur image. Les oiseaux parlent en répétition, leur chant est cyclique, et qui vont inspirer une esthétique musicale particulière. Musique liée à la chasse, je l'ai dit, qui devient l'emblème des hommes des hauts. L'agent ailé symbolise les autres et les autres. Non, l'agent ailé vit en symbiose avec les autres animaux, avec lesquels elle communique. Quand un homme chasse et qu'il entend tel oiseau chanter, tel singe se bouger sur un arbre et tel autre oiseau chanter, il sait qu'il y a un serpent au pied de l'arbre. Il est averti. Donc, d'autres oiseaux, je l'ai dit, émettent des présages. D'autres oiseaux sont des confidents, des conseillers. Je l'ai mentionné avec les pigeons, les sept pigeons. Pagode, Poutian, les compagnons de vie de Mamiminbin, ils sont aussi en grande intimité. Les hommes et les oiseaux ont une constante intimité, mais aussi avec les plantes. Les plantes qui sont perçues comme nouant entre elles des relations de proches. On parle d'une plante mâle et on cherche et on enseigne aux enfants sa femelle. Plus éloignée est la relation de cousinage, puis vient celle de compagnonnage. Donc, quand on regarde les plantes, on les regarde un peu à l'image des humains. Elles entretiennent entre elles une vie relationnelle, fondée sur le genre, femelle ou mâle, et une presque parenté, l'esquisse d'une vie sociale. Par contre, la plante cultivée par excellence, la plante nourricière, le riz et les plantes associées, les tubercules, sont le corps sacrifié, donc une nouvelle mort intentionnelle d'un homme du rêve, à l'injonction d'un homme du rêve. Et cet enfant, cette image iconique de l'enfant est irréfutable. Cette petite fille immolée s'est métamorphosée en riz et le corps du chien en plante bouturée. Cet enfant est présente dans chaque champ. Elle est le riz croissant, le champ est son corps. Sa présence en filigrane transfigure l'espace du champ et infléchit les conduites humaines à l'égard de cette céréale. Une vigilance attentive, calme et tendre est accordée au riz tout au long de sa croissance. Il y aurait d'autres transfigurations, j'en suis sûre, morcelées, partiellement unifiées. Nous sommes loin du paysage des Incas, dans leur construction architectonique. Nous sommes dans, pourtant, nous sommes en présence de transfigurations in situ et de transfiguration in visu, je pense. Et probablement d'une manière plus diffuse, plus sonore, moins architectonique. Mais les Palawan diraient, que diraient-ils pour dire le paysage? Eh bien, ils diraient tout simplement « Pagdogbe sat lung sot kai », les formes, la silhouette, le contour, l'aspect de notre pays. Ceci désignerait plutôt la morphologie du paysage et l'environnement. Et j'ai tenté de capter les résonances plus secrètes, plus abstraites, plus ténues, intériorisées par la conscience collective, mais consciente et semi-consciente, des hommes des hauts, de ce pays singulier, que leur pensée et leur vie poétique transfigurent.
Merci Nicole pour ce bel exposé.